soit Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole du Seigneur dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 12 au verset 21. La lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 12 au verset 21. Pendant que vous cherchez, je vous rappelle aussi de vérifier que votre téléphone soit mis en mode silencieux pour ne pas déranger. Amen. Prêt à la lecture? C'est l'apôtre Paul qui nous écrit et qui nous dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits ayant cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, pour nous. Notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. En lisant ce texte cette semaine, je me disais, Seigneur, quelle parole de l'apôtre Paul, Seigneur, quelle lettre testamentaire de son parcours et de son ministère. Et finalement, j'ai fait fausse route. Parce que ce n'est pas un testament qu'il écrit. Il écrit sa direction. Et d'ailleurs, en lisant ce texte, on voit que l'apôtre Paul dit « Je fais une chose ». Alors, en lisant un peu l'histoire, le parcours de l'apôtre Paul, je me suis dit « Mais comment il fait à dire qu'il fait une chose ?» Qui pense que l'apôtre Paul fait une chose ? Quand vous lisez, il était partout. Il a fondé des églises, il a été instrument de la part de Dieu pour une œuvre missionnaire. Ça a été le premier missionnaire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il a fait encore l'apôtre Paul ? Il a fait des voyages, il s'est retrouvé dans des histoires pas possibles, il a été en prison, il s'est retrouvé à enseigner et le jour d'après à être lapidé. Et une fois qu'il est lapidé, il retourne dans la ville. Il a fait une seule chose ? À votre avis, l'apôtre Paul a fait une seule chose ? On pourrait se dire non, mais parce qu'on regarde comme ça, mais l'apôtre Paul, en effet, peut-être que la traduction, elle n'est pas tout à fait juste. On aurait pu traduire cela, je n'ai qu'un but. Et si je prends tout ce que nous venons de partager, on comprend bien que l'apôtre Paul avait un seul but. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour le Seigneur. D'ailleurs, dans ce texte, il le dit parce qu'il a été saisi par Christ. Et à partir de là, tout le reste n'a plus d'importance. Il avait des places de responsabilité, il avait finalement atteint un niveau. Et finalement, il dira plus loin dans son témoignage, j'ai considéré tout cela comme de la poubelle. Je ne fais qu'une chose. Alors, ce matin, j'aimerais vous poser la question, êtes-vous capable de faire une chose ? Alors je vois les dames dire oui, les hommes oui. Et alors je dis c'est plus simple pour les hommes alors, si vous dites cela. Parce que la réalité c'est en effet de dire Seigneur, est-ce que je suis capable ? Moi je me suis posé la question, est-ce que je suis capable dans ma vie chrétienne de ne faire qu'une chose ? Est-ce que ma vie, est-ce que je l'ai consacrée au Seigneur en tout et pour tout. Ou est-ce que j'essaye finalement de faire une chose pour le Seigneur, une chose pour moi ? De bâtir le royaume de Dieu, mais le royaume aussi le mien, vous savez ? On peut avoir tendance à vouloir se bâtir un petit royaume, quand même. Hein ? À la maison, c'est qui commande ? Hein, quand même, hein ? Oui, on pense être le chef, mais on n'est pas le chef. On est l'exécuteur de toutes les tâches possibles et imaginables. Et on a toujours le dernier mot. Oui, chérie. Vous dites, vous verrez ça à la maison. Vous comprendrez votre peine. L'apôtre Paul, il dit ainsi, non pas parce qu'il est, seul, mais parce qu'il a fait un choix. Et dans ce choix, il dit, moi je fais une chose. Finalement, tous mes efforts, ils sont concentrés dans un seul but. Mon désir est d'accomplir une chose qui est au-dessus de tout, puisque servir Dieu, c'est au-dessus de tout. Êtes-vous d'accord avec moi ? Oui ? Donc, à quelque part, l'apôtre Paul mettra des priorités là où il y a besoin de priorités. Je ne vois pas l'apôtre Paul dans tous les textes, et ce n'est pas question de ne pas vouloir nous en faire part, je ne vois pas l'apôtre Paul saisir les occasions qui lui sont présentées pour présenter une réussite personnelle. Il dira toujours « pour la gloire de Dieu, par grâce ». L'apôtre Paul a saisi que quoi qu'il en soit dans sa vie, tout ce qui peut être bon vient de la part du Seigneur. Et il reconnaît aussi ses faiblesses. Il reconnaît aussi qu'il a besoin lui-même encore du secours et de la grâce de Dieu, comme nous tous. Et pourtant, l'apôtre Paul a pris une décision, il dira « je ne fais qu'une chose ». Alors dans la parole de Dieu, j'ai cherché cette phrase « une chose ». On va en lire quelques textes ensemble. Le psaume 27, versets 4 et 5. À liberté à vous, après à la maison, de lire le texte en entier. Mais là, le psalmiste dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » David, il est quand même roi. Il habite dans un palais et il dit, je désire une chose ardemment, je veux être dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est vrai, il a été roi, c'est vrai, il a connu des combats, mais les meilleurs temps de sa vie ont été quand il était avec ses brebis, alors qu'il n'était que simple berger. Parce que dans ces temps-là, il avait tout le temps pour louer le Seigneur, pour glorifier Dieu. Il avait une relation personnelle avec le Seigneur. Et malgré toutes les occupations qui étaient là, il espérait, il recherchait de retrouver cette relation simple avec Dieu. Combien aujourd'hui aspirent à retrouver une relation simple avec Dieu ? On pourrait croire que Dieu cherche à avoir quelque chose de compliqué de notre part. Je voudrais vous dire ce matin, soyez simple avec Dieu. Faites une chose, approchez-vous de lui, point. Soyez simple avec Dieu. Ne cherchez pas à en faire trop, parce que ce n'est pas ça qui va attirer le regard de Dieu. Dieu ne te demande pas d'être un hyperactif spirituel. Seigneur, j'ai entendu aujourd'hui 25 messages, 300 chants. J'ai fait... Mais Seigneur... Il s'en manque de tout ça. T'as pas fait l'essentiel. T'as pas cherché sa face, t'as pas cherché cette relation personnelle avec lui. Alors, bien évidemment, écouter un message, chanter, c'est utile, c'est très bien, ça entretient. Mais est-ce que tu as fait une chose ? Est-ce que cette semaine, tu t'es donné comme objectif de faire une chose ? Là, le psalmiste lui dit, je fais une chose que je recherche ardemment. Il désire être dans cette relation avec Dieu, dans l'adoration, être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as fait cela cette semaine ? On va plus loin, parce qu'on peut rechercher une chose, mais il est question dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 21, de renoncer à quelque chose. Parfois, on renonce à tout sauf à quelque chose. Et regardez, vous connaissez le texte. Jésus l'ayant regardé, les mains, puis lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Alors, je vous soulage de la pensée qui pourrait être celle que Dieu voudrait faire de vous des misérables. Ce n'est pas ça du tout. Comprenez bien. La volonté de Dieu est de nous faire comprendre que si une chose, quelle qu'elle soit, prend la place qui est la sienne, cette chose-là devient un obstacle. Donc, à quelque part, je suis en contraposition de ce que j'ai loué ou lu ou chanté avant. Je désire une chose que je recherche ardemment. Ce chant, on le chante, non ? Une chose. Alors imaginez qu'au milieu de chant, il y a une fausse note. Et là, vous vous tournez vers le pianiste, vous dites, mais t'as fait quoi, François? T'as fait une fausse note? Non. La fausse note, c'est nous qui la faisons, parce que nous déclarons quelque chose qu'en réalité, on ne fait pas. Je désire ardemment. Qu'est-ce que tu désires ardemment? Passer du temps dans la présence de Dieu, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette relation avec Dieu? Peut-être qu'il y a encore une chose auquel tu devrais renoncer. Et cette chose-là, elle est devenue pour toi, finalement, quelque chose qui prend la place de l'essentiel dans ta vie. Le Seigneur, il n'a pas de problème avec la richesse. Abraham, il dit la parole de Dieu, il était fort riche. Il ne savait même pas, lui, combien de chameaux il avait. Pour parler des chameaux, serviteurs, servantes et tout le reste. Mais ce n'était pas l'essentiel. Et regardez, qu'est-ce que Dieu lui demande à Abraham? Est-ce qu'il lui demande ses richesses? Non, parce que les richesses n'étaient pas le plus important dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce qui était le plus important dans la vie d'Abraham? Son fils. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Waouh! Est-ce que Dieu est capable de nous demander des choses qu'on aime? Et qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Il va compter sur la grâce de Dieu, sur la parole de Dieu, sur la vérité que la parole prononce. Il est prêt parce qu'il sait que Dieu est capable aussi de redonner de la vie, de ressusciter. Et il est prêt à aller jusqu'au bout. Alors, on l'a déjà dit, Dieu le savait. Dieu sait ce que tu es capable ou pas de faire, de dire. Par contre, Abraham, il avait besoin de réaliser. Peut-être que toi aussi, tu as besoin de réaliser. Est-ce que tu es prêt vraiment à tout lâcher pour dire, Seigneur, je veux faire une chose? Ces derniers temps, j'ai entendu parler de personnes qui font une liste des choses à faire avant leur départ. Alors, il y a des trucs, je voyais, il y a une personne, il a mis 100 choses différentes à faire. Où c'est pour vraiment renvoyer au fond la mort, hein, parce qu'il en a 100 à faire quand même, il faut du temps. Hein. Non ? Ou c'est parce qu'à quelque part, il a perdu l'essentiel ? Et l'apôtre Paul dira dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, hein, dans la lettre aux Philippiens, il dira, il ne pense qu'aux choses de la terre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre pour nous, notre cité est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous vivez comme des SDF du ciel? Ma demeure, elle n'est pas ici bas, hein. Même si j'habite à l'étage au-dessus, hein. C'est transitoire. Hein. Ma demeure, elle est où? Ta demeure, elle est où? Où est-ce que tu veux te retrouver un jour? Ici-bas ou en haut avec le Seigneur? Ah, mais qui serait prêt à partir ce matin? Allez. Ouais, Seigneur, mais je voudrais avant... Seigneur, je voudrais faire ça avant, si tu pouvais me permettre. Je voudrais devenir grand-père, je voudrais devenir... pilote de Formule 1, je sais pas. Hein, on peut mettre plein de choses et dire Seigneur, mais... Et le Seigneur te dit, ben, il te manque une chose. Lâche. Lâche les choses. Ne reste pas bloqué là-dessus. Avance. On avance. Luc chapitre 10, versets 40 à 42. Une chose essentielle. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Waouh! C'est beau, hein? On aimerait avoir des ouvriers comme ça. Hein. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule faire pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. Ah, Seigneur, c'est dur la famille. Hein. Marthe, Marthe, qui aimerait avoir une Marthe à la maison? Hein? Eh bien oui, elle est super, Marthe. Marthe, elle se lève, elle a déjà préparé, planifié sa journée. Elle sait ce qu'elle va faire de 10h à 11h, de 11h à midi, de midi à 13h. C'est top et en fin de journée, tout est bouclé. Et sa sœur, ben elle, tu sais pas. C'est laissons-nous vivre, hein? Laissons le temps venir. Si on avait quelqu'un comme ça à la maison, je suis sûr qu'on serait comme Marthe en train de dire, mais Seigneur, je sais pas, fais quelque chose, Seigneur, fais-lui une transfusion de mon ADN parce qu'on est sœurs, mais on a l'impression qu'on n'est pas les mêmes, non? Et alors elle va vers Jésus et dit, « Jésus, toi qui peux faire des miracles, fais-moi-en un, fais Marthe deux. » Ah, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir être en multicopie. Seigneur, je vois ma femme, elle dit non. Déjà, elle en a un, ça suffit. Hein. Parce qu'on aimerait que tout le monde voit les choses comme nous. Qui les ressent comme nous, qui met le même engagement, la même chose. Hein, s'il y avait 10 personnes au lieu d'être un seul pour faire les choses, Seigneur, ça irait plus vite, on en ferait plus. Ah, on a cette mentalité. Et le Seigneur renverse encore une fois un raisonnement et lui dit, Marthe, Marthe, toi, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors ce matin, y a-t-il encore parmi nous des frères et sœurs qui s'inquiètent et s'agitent pour beaucoup de choses? Ça ne veut pas dire que Dieu est contre que tu aies des projets, hein. Mais place-les entre les mains de Dieu. Ne laisse pas que ces projets t'absorbent à tel point que finalement, au lieu de garder tes yeux fixés sur le Seigneur, tu te déplaces et tu regardes autre chose. Ton but dans la vie, c'est autre chose. Au lieu de dire, moi, je désire toujours une chose. Seigneur, c'est ce qui est là, c'est pour que je puisse atteindre ce but. Seigneur, merci. Un jour, dans une visite, une jeune sœur me dit, « Pasteur, est-ce que vous pensez que le Seigneur est contre les études ?» Elle avait été dans une église où on lui avait dit qu'il ne fallait pas trop étudier parce qu'en tous les cas, la place de la femme, c'était à la maison. Et cette jeune sœur, elle s'était inquiétée. Elle dit, « Mais est-ce que c'est... » J'ai dit, « Ma sœur, moi, je vais te dire quelque chose. Fais les études que Dieu te donne de pouvoir faire. » Parce que ça veut dire aussi que Dieu a prévu que tu sois dans un endroit où tu pourras servir et alors que Dieu te donne la capacité, la connaissance, la sagesse pour bien faire les choses. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas remplir ce que Dieu attend de toi. Et si après le Seigneur a prévu que tu sois une épouse, une maman, mais je crois que le Seigneur est capable de te donner tout ce qu'il faut. Amen. Vous êtes d'accord les sœurs? Amen. Hein, ah, les sœurs, elles sont à fond. À fond. Mais en tout cela, les inquiétudes et les agitations n'étaient pas seulement un problème pour Marthe. Il y a des Martins aussi. Y a-t-il parmi nous des hommes qui s'agitent et qui s'inquiètent pour l'avenir ? Comment je vais faire pour ma famille? Comment je vais faire pour mes enfants? Comment je vais faire pour ceci? Comment je vais faire pour cela? Comment je vais arriver? Comment je vais boucler la fin du mois? Comment je vais joindre les deux bouts? Comment je vais payer mes factures? Comment je vais m'acheter une nouvelle voiture? Comment je vais pouvoir m'acheter une canne à pêche? Ben oui, tout rentre dedans. On est tellement pris dans les inquiétudes. On calcule, on mesure. Et on oublie que finalement, l'essentiel, si tu as donné ton cœur au Seigneur, ce n'est pas tout ça. Alors je répète, le Seigneur n'est pas contre que tu ailles à la pêche. Tu connais le texte où le Seigneur lui dit à Pierre, « Pierre, va, pêche un poisson, ouvre la bouche, il y aura de quoi payer les impôts pour toi et pour moi. » Et le lundi matin, 4 novembre, tous les chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Arles partirent à la pêche pour payer les impôts. Non ? Parce que le pasteur l'a dit. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu sait comment pourvoir. Mais vous, mes frères, mes sœurs, faites de l'Éternel votre seul point, votre seule recherche, votre seul objectif. On va plus loin ? Jean chapitre 9, versets 24 à 33. Et là, c'est même pas un, c'est un jeune converti qui nous parle. Regardez ce que c'est merveilleux la parole de Dieu. Jean chapitre 9, versets 24 à 33. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Il parle de Jésus. Il répondit : s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Et lui dire : qu'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Il leur répondit : je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Donc c'est déjà cet homme, il a fait un choix, il est devenu disciple. Amen. Ils l'insultèrent et dirent : c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit : voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Regardez quelle leçon de théologie pour un jeune converti. Il ne regrette pas d'être disciple de Christ. Il n'est pas gêné parce qu'on lui dit : toi, tu es disciple. Pour lui, c'est une bonne chose. Et dit : nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Il avait tout de suite compris le principe, une chose. Amen. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Waouh ! Et là, il a balayé tout le discours des pharisiens avec une théorie. Une chose, Jésus, une chose, honorer Dieu, mettre Dieu à sa place et savoir que Dieu répond aux prières de celui qui le met à la première place. Il a tout compris cet homme. Je ne sais pas si nous on aurait réagi ainsi à une telle interprétation, une telle question de la part de gens qui en avaient quand même un tout petit peu sous le capot. Hein. Les pharisiens, ils connaissaient la loi, ils connaissaient la parole, ils étaient respectés, ils étaient habillés pour. Hein. Ils avaient un costard trois pièces, quand tu les voyais, tu savais que c'était des pharisiens. Mais sauf qu'il leur manquait une chose, l'essentiel, Jésus. Et cet homme qui était aveugle, et à qui le Seigneur a ouvert les yeux, il a tout saisi. Et moi, je voudrais dire, Seigneur, ce matin encore, ouvre-nous les yeux, pour que nous aussi, on puisse saisir tout. Seigneur, est-ce que vous êtes prêts à être disciples de Christ ? Attention, ça engage. Être disciple, ça veut dire suivre le Maître, non ? Et vous imaginez, vous voyez l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il lui dit : sois comme le soldat qui ne s'embarrasse pas des choses. Parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, non ? Sois comme celui qui va travailler dans les champs, tu dois avancer comme ça, fais les choses correctement. Sois comme l'athlète qui se donne un but et qui court selon les règles. Mais nous aussi, faisons une seule chose, mais faisons-le bien. Tu veux être disciple du Christ ? Bien, mais fais-le bien. Fais-le vraiment. Il y a encore quelque chose à ne pas oublier. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 13. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier. Toujours une chose. Bien-aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux s'ouvrant avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela et en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fendront. N'oubliez pas, il y a une chose à faire, c'est préparer la venue du Seigneur. Une chose. On pourrait dire, mais là, pasteur, tu en as dit plusieurs. Non, ça va toujours dans le même but. Ayez un but. Donnez-vous un but dans votre vie. C'est terrible parfois. J'ai rencontré des jeunes qui ont entamé dans leur vie d'études différentes spécialités parce qu'ils ne savaient pas trop. Alors ils sont partis, ils ont fait une spécialité, ils ont fait un an, deux ans. Je me rappelle d'un jeune en Italie, il était parti à l'université et il a fait une première année à l'université, ça n'a pas marché. Il a changé d'université, il en a fait une première année dans une deuxième université et il a fait comme ça pendant 8 ans. Donc, il a fait 8 universités différentes sur 8 matières différentes. À partir de là, on devrait se dire, c'est un bac plus 8, j'en sais rien. Mais en effet, il en était toujours au bac à sable. Il s'était rempli et farci la tête de beaucoup de choses, mais il ne savait rien faire. Et un jour, son père, fatigué de travailler pour payer les études de son fils qui était logé dans une grande université et tout le reste, son père lui dit, mais écoute, il lui dit, papa, je ne sais rien faire. Il dit, mais moi, avec toutes les études que je t'ai payées, tu devrais au moins savoir faire une chose. Il dit, je ne sais rien faire. Ça serait terrible au bout de notre vie de se dire, je ne sais rien faire. Je n'ai pas fait ce qui était essentiel, parce que je me suis éparpillé, je me suis mis à regarder partout finalement et ne pas trouver la voie que je devais saisir. Quelle est la voie que Dieu te demande de saisir? Est-ce que c'est la vie éternelle? Je termine par un texte. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Regardez le premier commandement. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ça peut traduire aussi, l'Éternel est unique. Il n'y en a pas d'autre. Amen. La suite. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Point. C'est un sacré programme, non? Vous croyez ou pas que c'est un grand programme, ça? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. En effet, il n'est pas question de s'éparpiller à droite, à gauche. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et ce n'est pas question de ne pas aimer les autres, de ne pas aimer le conjoint, de ne pas aimer tes enfants. Le Seigneur ne te demande pas ça. Mais l'amour que tu as pour ton conjoint, l'amour que tu as pour tes enfants, l'amour que tu as pour tes frères et sœurs ne peut pas et ne pourra jamais être le même que l'amour que tu dois avoir pour ton Dieu. La place de Dieu, elle est unique, puisque Dieu est unique. Et il te demande de faire une chose. Si le Seigneur nous demandait d'en faire plusieurs, on pourrait lui dire, Seigneur, mais tu m'en demandes trop. C'est trop. Non? Seigneur, tu me demandes trop. Alors qu'il te demande une chose. C'est simple. C'est nous qui faisons les choses compliquées. C'est nous qui n'arrivons pas à comprendre parce qu'on pense que c'est dans la multiplicité des choses qu'on obtiendra du résultat. Alors que le Seigneur te demande de faire une chose et de te concentrer. Si ton but, c'est ta vie éternelle avec Dieu, fais de ça ton but dans ta vie. Et après tout, le reste va être autour, va servir. Bien évidemment, est-ce que Dieu va te laisser sous un pont? Mais non! Est-ce que Dieu va laisser tes enfants sans instruction? Mais non! Est-ce que Dieu va te mettre en situation de difficulté? Mais non! Sauf qu'en toute chose, tu verras la main de Dieu. Parce que toi, tu t'es engagé avec Dieu. J'ai déjà dit à quelques reprises, occupez-vous des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de vos affaires. Ah, c'est mieux, ah, ça, on aime bien. Hein? Mais ne sois pas étonné que si Dieu s'occupe de tes affaires, il te ramène dans une seule direction, Non. Finalement, pour que tu puisses, toi, réaliser quel est le véritable objectif de ta vie et ne pas passer à côté. Ne pas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et en effet, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais les autres, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Frères et sœurs, il ne faudrait pas que les choses de la terre prennent plus de place que Dieu dans notre vie personnelle. Avec ça, Dieu ne te dit pas que tu ne dois pas travailler, puisque la Bible dit que celui qui ne travaille pas... Ah ! Non ? Vous allez dans la Genèse, ce qu'il va dire à Adam, c'est clair. Hein, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est juste ou pas ? Donc Dieu ne te dit pas de ne pas bosser. Hein. Tu ne vas pas te mettre devant le supermarché, attendre. Eh bien, Dieu m'a dit, je fais une chose. Ça, c'est une interprétation personnelle, mais pas biblique. D'accord ? Mais si je regarde le texte, l'apôtre Paul dira finalement, ma patrie, elle est céleste, j'ai un prix à atteindre. Je ne l'ai pas encore atteint. Là, on est dans les derniers chapitres, dans les dernières lettres que l'apôtre Paul est en train d'écrire. Moi, j'aimerais pouvoir avoir le CV de l'apôtre Paul, non ? Oui ou non, Bernard ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ben super ! Comme l'apôtre Paul. Pof ! Hein ? Votre CV, comme l'apôtre Paul. Et alors là, il n'y a plus rien à dire. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce que vous savez, si l'apôtre Paul a fait ces choses dans un but, il y en a d'autres à qui Dieu a demandé d'en faire moins, mais ils sont arrivés au même but. La parole de Dieu me parle d'un homme. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Enoch. Il y a une seule chose. Il marchait avec Dieu, point à la ligne. Et Dieu l'a pris avec lui. Qui voudrait marcher avec Dieu ? Mais ça veut dire quoi, marcher avec Dieu ? Ce n'est pas une promenade. Hein ? Tu n'es pas parti crapahuter dans les Alpilles. Hein ? Non, non. En effet, tu marches avec le Seigneur dans la voie que lui l'a préparée, que lui l'a prévue, à la vitesse que Dieu va te demander de prendre. Et Dieu sait si tu peux ou pas accélérer la cadence. Et en même temps, le but, c'est d'arriver au bout. C'est de faire une chose. Mais bien le faire. Alors, je voudrais ce matin qu'on prenne un moment. Chacun dans son cœur de dire, Seigneur, est-ce que je suis en train véritablement de œuvrer pour une chose ? Est-ce que j'ai fait de toi, Seigneur, une chose, ou est-ce que finalement je me suis laissé avoir par beaucoup de choses qui m'ont éparpillé ? Et si ce matin tu te rends compte que tu t'es éparpillé, moi je voudrais te dire, cette parole, elle n'est pas là pour t'accuser, mais elle est là pour te recentrer et te dire, fais une chose. On aimerait parfois faire beaucoup, même trop. Un jour, j'ai rendu visite à un jeune homme dans un hôpital. C'était un ado qui venait de tenter le suicide parce que il était seul. Il se sentait seul. Ses parents avaient des moyens, mais ils étaient tellement absorbés par leur soif et volonté de réussite qu'à 14 ans, l'enfant, il avait un appartement de 140 mètres carrés pour lui seul. À 16 ans, il avait une Mercedes dans le garage alors qu'il n'avait même pas le permis. Et à 17 ans, les parents ils lui ont offert d'avoir une relation avec une prostituée comme cadeau. Et cet enfant démoli par le manque d'amour, par le manque d'attention, par le manque de moralité de ses parents, il avait tenté le suicide. Et alors que j'étais là à l'hôpital, les parents, ils étaient passés juste avant. Et le père lui dit, mais tu ne comprends pas. Tu ne vois pas, là, tu nous fais perdre du temps. Tu ne te rends pas compte, nous on a des choses à faire. Tu Ta mère, elle a son entreprise, moi j'ai la mienne. Débrouille-toi tout seul. Moi, je bénis Dieu parce que Dieu n'agit pas comme ça. Il ne te dit pas, débrouille-toi tout seul. Il ne te met pas dans des situations. Si tu es dans des mauvaises situations, c'est parce que tu as voulu y aller. Excusez-moi. Hein. Si tu as pris des mauvaises décisions, il faut aussi que tu arrives à te dire, Seigneur, je reviens vers toi avec un cœur repentant. C'est ce que l'apôtre Paul dit. En effet, la volonté de Dieu, c'est de nous amener à la repentance, à une véritable repentance. Peut-être que tu t'es lancé dans plein de choses parce que tu pensais que c'était comme ça. Peut-être qu'on t'a éduqué comme ça, on t'a montré comme ça, on t'a dit comme ça. Mais ton Père Céleste te dit une chose. Donne-toi un objectif. Ta vie éternelle avec le Seigneur. Et tout le reste, il vous sera donné. Amen. On ferme nos yeux. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit ton nom. Seigneur, la vie nous apprend bien des choses. On nous apprend, Seigneur, à devoir, Seigneur, grandir, apprendre, se battre. On nous apprend à devoir réussir, on nous apprend à devoir, Seigneur, faire sa place. On nous apprend à chercher par tous les moyens la réussite, sans laquelle, en effet, nous sommes rien. Nous n'avons pas de valeur, nous ne pouvons pas nous élever auprès des yeux des uns et des autres. Et ta parole, elle nous dit que nous sommes appelés à une chose. Seigneur, je te bénis parce que tu n'as pas mis la barre trop haute. Tu aurais pu. Et lorsque, Seigneur, tu permets à notre cœur de comprendre ta parole, nous nous rendons compte, Seigneur, que tu cherches quelque chose de possible, envisageable. Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, nous n'avons pas tous le même parcours, mais tu nous ramènes tous dans la même direction. Et tu nous demandes à tous, faites une chose. Seigneur, encore ce matin, ta parole nous invite, Seigneur, comme l'apôtre Paul, Seigneur, à ne pas regarder en arrière, mais à tendre vers ce qui est en avant, Seigneur. Et si nous nous sommes trompés dans notre passé, Seigneur, merci de nous permettre de nous détourner de notre passé, de ne pas continuer dans la mauvaise direction, mais d'aller dans la bonne direction. C'est avec un cœur repentant encore ce matin, Seigneur, que je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, où je me suis égaré à vouloir faire beaucoup de choses et ne pas être dans cet unique objectif qui est de faire ce que toi tu veux. Et Seigneur, je te prie que tous ceux qui est placé, Seigneur, devant nos yeux, Seigneur, devant mes yeux, Seigneur, puisse recevoir, Seigneur, le oui ou le non de ta part. Seigneur, et lorsque c'est oui, Seigneur, rien ne pourra dire non. Mais lorsque c'est non, Seigneur, rien ne pourra, Seigneur, s'opposer. Seigneur, donne-nous cette capacité de chercher ta volonté et surtout de nous poser une seule question. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou la mienne ? Et Seigneur, lorsque c'est pour ta gloire, Seigneur, c'est toi qui enverras, Seigneur, les moyens, la bénédiction, ce qu'il faut. Seigneur, merci encore parce que tu es celui qui nous invite, Seigneur, à chercher ardemment, Seigneur, cette relation avec toi, une seule chose, Seigneur. C'est toi aussi, Seigneur, qui nous rappelle l'importance, Seigneur. Seigneur, d'enlever tout ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre cet objectif. Seigneur, de nous séparer ce qui n'est pas bon pour notre vie. De la même manière, Seigneur, que nous ne voulons pas laisser les inquiétudes prendre place, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être à tes pieds, Seigneur. Choisir cette bonne part qui ne nous sera pas enlevée, Seigneur. C'est une promesse de ta part, Seigneur. Quelle parole pour nous encore ce matin. Celui qui se met au pied de l'Éternel, il a trouvé la bonne part. Mon frère, ma sœur, encore ce matin, plaçons-nous ensemble au pied du Seigneur. Cherchons cette bonne part. Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour tous les jeunes qui sont là dans les études, Seigneur, dans la préparation de leur avenir, Seigneur, qui puissent te mettre au centre de leur vie, Seigneur. Et que là où tu les emmèneras, Seigneur, ils puissent être des instruments, des témoins, Seigneur, des disciples de Christ, Seigneur. Seigneur, merci encore parce que tu as ouvert les yeux de l'aveugle, Seigneur, mais tu ouvres aussi les nôtres, Seigneur, spirituellement, ce matin, Seigneur, pour nous rappeler, Seigneur, que tu ne donnes pas, Seigneur, de réponse favorable à la prière de celui qui vit dans le péché, mais de celui qui fait ta volonté, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, Père. Nous te louons et nous te glorifions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.